sans détour avec Élisane Pellerin.
Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on commence avec Samuel Lachaine, notre chroniqueur au sport. On va poursuivre avec Martin Allonde, agent des défenses collectives et des droits chez Execo. Et on termine l'émission avec Mathieu Lamarche du groupe GDI pour parler de bâtiments adaptés. Bonne émission! Bonjour, on commence tout de suite l'émission avec notre chroniqueur Samuel Lachaine au sport. Bonjour Samuel.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un joyeux temps des fêtes à toi, Élisane, et à toute l'équipe de Radio M.
Joyeux temps des fêtes à toi aussi. On est bien heureux de terminer l'année avec toi. Et au niveau des sports, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
Ben, en fait, cette semaine, j'avais simplement envie de vous parler de différents sports adaptés qu'on pourrait pratiquer. En hiver, au cours, évidemment, du temps des fêtes, c'est peut-être un bon moment justement pour pratiquer les sports et passer le temps un petit peu avec ça. Donc, j'ai dénombré là, 5 sports au total qui pourraient peut-être vous intéresser au cours du temps des fêtes et pendant les fêtes.
Étant donné qu'on a des congés en famille et qu'on essaie d'aller dehors un peu, de profiter de l'hiver pour voir ça de positif, hein, ça pourrait être une bonne chose, donc, effectivement, de savoir quel sport on pourrait faire. Donne-nous tes suggestions, Samuel.
Évidemment, je pense que le premier sport, on retient surtout l'attention, c'est le ski alpin.
Évidemment.
Évidemment, on sait que c'est beaucoup pratiqué partout au Québec, que ce soit à Saint-Sauveur et du côté peut-être de Québec et tout ça. Donc, entre autres, le ski alpin adapté, bien évidemment, c'est un sport très populaire qui ressemble quand même beaucoup au vrai ski. Moi, entre autres, j'en ai fait pendant 5 ans et je peux vous dire que c'est un sport hyper plaisant à faire. C'est sûr que ça prend des grosses ressources différentes avec de l'équipement adapté pour en faire, mais il y a quand même possibilité pour tout le monde là, d'en faire.
Il y a quand même des organismes qui offrent, oui, des équipements adaptés pour les personnes en situation de handicap. Il y a différents organismes, donc oui, qui prêtent, je devrais dire, des équipements adaptés. Pour ceux qui n'auraient pas d'équipement, il suffit d'aller sur Internet là, dans votre région, entre autres dans Laurentides, le tourisme Laurentides le font pour avoir de l'équipement qui correspond à vos besoins sans que vous ayez à y acheter, bien sûr.
Oui, exactement. C'est sûr que la plupart du temps, le ski alpin adapté, comme tu dis, ça se fait avec une fondation. Entre autres, moi, j'en ai fait. C'était avec une fondation. Et dans ce temps-là, on se retrouve avec, évidemment, des moniteurs certifiés qui ont eu, évidemment, des formations pour pouvoir vous aider à pratiquer le sport. Entre autres, quand je parlais de ressources, c'est qu'il y a différents équipements. Entre autres, le Mountain Man. Et peut-être que vous avez déjà vu ça sur les monts, là. C'est un siège aussi avec une paire de skis sous la lune.
Oui.
Évidemment, on dirige ça avec des bâtons ski sur les bras pour quelqu'un qui a évidemment plus de force, mais il y a aussi des gens qui peuvent se mettre avec des harnais derrière pour t'aider justement à te diriger et éviter là, que tu pars rapidement sans avoir le moyen de traîner, évidemment.
Oui.
Donc ça, c'est le Mountain Man. Il y a le dual ski qui est similaire au Mountain Man, mais c'est un peu plus flexible et facile à manœuvrer sur la plupart du temps. On va plus voir ça dans les compétitions, là, évidemment. Il y a aussi le tandem ski. C'est des skis allongés pour descendre en tandem, comme un bâton qui permet à 2 personnes d'être côte à côte, là, évidemment, pour pouvoir descendre. On peut attacher les bottes directement sur la barre stabilisatrice. Ça nous permet de descendre. Et aussi, il y a une forme de on appelle ça le ski à 3 traces, qui était béquille, en fait, pour les amputés, qui permet justement d'ajuster l'équilibre pour, évidemment, descendre la pente. Donc, c'est pas mal les équipements principaux, mais on voit qu'il y a vraiment, là, pour tout le monde, là, des équipements disponibles.
Pour le ski en tandem, ce que je comprends, c'est qu'on est sur les mêmes skis. Il y a deux espaces où on peut être ensemble là, sur les skis.
Oui, exactement. Puis évidemment, il y a toujours quelqu'un avec toi. Ouais.
Oui, idéalement, quelqu'un qui s'y connaît, qui est capable de manœuvrer les skis de façon sécuritaire, c'est-à-dire pas moi.
Okay. Ouais, exactement.
On n'ira pas faire du ski ensemble, Samuel, cet hiver. Je suis désolée. Autre ski, est-ce que tu as d'autres suggestions pour nous?
Oui, bien, en fait, c'est encore dans le ski, c'est dans le même registre. Mais il y a aussi, évidemment, le ski de fond qui se fait aussi avec des équipements qui y ressemblent. C'est sûr que dans une ville adaptée, en ski de fond, ça demande probablement plus de force dans les bras parce qu'on sait que le ski de fond, évidemment, il n'y a pas toujours des pentes pour descendre. Donc, c'est différent. Et ça va se pratiquer, évidemment, plus dans les sentiers naturels. Donc, moins à faire avec des fondations et tout ça, là. Il faut être un peu plus habitué, disons, dans ces conditions.
Mais j'imagine qu'il y a plus d'endroits près de chez nous où on peut en faire du ski de fond, hein, parce que ça prend pas, évidemment, il y a une grande montagne, là, ça prend des sentiers, il y en a un petit peu partout au Québec.
Oui, exactement, puis si on veut partir comme on veut, et là, ça prend plus d'organisation, hein, par soi-même, où est-ce qu'on décide d'aller en faire, mais au moins... Ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'équipement, justement, qui est disponible également pour faire du ski de fond. Donc, je trouve ça intéressant de ce côté-là.
Effectivement, ouais. Ben, ça permet aussi de découvrir autour de chez nous, hein, puis d'aller en nature, en forêt. Comme tu disais, c'est peut-être plus accessible que les grands monts de ski où il y a énormément de gens, là, et on a quand même relativement peu de montagnes pour tous les gens qui pratiquent le ski alpin.
Oui, puis justement, tu parles de sentier naturel, ça va en lien avec mon troisième sport, qui est peut-être pas nécessairement un sport en soi, mais qui permet encore une fois de découvrir beaucoup la nature, et c'est pour ça que je sais pour tout le monde, le traîneau à chien.
Ah, oh, c'est du sport, c'est un sport. Moi, je catégorise ça de sport. C'est plus le chien qui court, mais quand même. Hein?
Oui. Ça nous permet quand même de découvrir, c'est ça. C'est une belle expérience avec les animaux parce qu'on sait que les chiens courts sont concentrés quand ils font vraiment leur travail, mais on peut quand même vivre l'expérience ensuite là, pour pouvoir les flatter et tout ça. Et ça amène un certain bonheur aussi de ce côté-là, je pense.
Oui, bien clairement, pour ceux qui aiment les chiens comme moi, de pouvoir avoir une activité avec des chiens, c'est toujours un bonheur et ça reste fascinant de voir à quel point les chiens sont forts et sont bien dressés hein, pour tirer des traîneaux.
Oui, ça permet d'aller activité dans la journée et comme je disais, ben, évidemment, on trouve le moyen d'avoir des aménagements aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc, pas trop de demande de force et on peut profiter de l'extérieur.
Effectivement, c'est plus...
Des bonnes couvertures,
oui. C'est plus un chien qui tire, donc nous, c'est quand même relativement passif, là, donc on est assis. Évidemment, là, ça vient avec un guide, hein, qui lui, va diriger les chiens parce qu'il connaît ses chiens. Oui, il y a plusieurs centres qui offrent des traîneaux qui peuvent être adaptés, tout dépendant du type d'handicap qu'on a, qui peuvent être adaptés là, pour les personnes en situation d'handicap. Donc, il faut appeler autour de ses choix des organismes, des centres qui offrent cette activité-là pour voir ce qui est possible pour vous.
Oui, puis justement, comme tu as dit ça en plus, quand même dans le registre d'activités à faire dans le temps des fêtes, je pense que c'est vraiment une belle activité à découvrir là, quand la température est confortable.
Tout ce qui inclut des chiens est quelque chose à faire, Samuel, pendant le temps des fêtes.
Exactement, puis là, on va aller peut-être plus dans l'intérieur, donc un sport d'hiver, mais qui se pratique moins au froid. Le curling, entre autres, j'ai parlé dans une chronique précédente, et qui va être un sport, encore une fois, paralympique, comme j'en parlais la semaine dernière. Je rappelle que le curling, évidemment, c'est vraiment similaire, là, que ce soit le curling normal ou le curling adapté. Donc, simplement une équipe de quatre. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de balayeur. Un coup qu'on a lancé la pierre vers le centre des précisions, là, si on peut dire. C'est donc juste des lancers, mais ça joue quand même au moins. À l'intérieur, on peut prendre vraiment notre temps là, pour pratiquer ce sport-là.
Il y a des équipes amateurs qui existent là, pour monsieur, madame, tout le monde qui veuille essayer de jouer au curling?
Oui, la plupart du temps, Parc de Québec, mais Curling Québec organise des événements pour pouvoir faire des tournois et former ses propres équipes, entre autres, ou juste pratiquer le sport pour découvrir dans les différents centres de curling qu'il y a au Québec.
C'est intéressant.
Oui, je vous avez acheté un œil sur Internet, là, puis vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs organismes qui organisent des événements là, pour découvrir le sport.
Et tu termines avec quel sport, Samuel?
Ben, entre autres, c'est sûr que ça, c'est aussi très populaire et ça demande ça énormément d'énergie. Mais
oui, clairement.
Mais le luge, qui peut être très intéressant parce que c'est quand même un sport populaire au Québec et ça ressemble aussi beaucoup au règlement du hockey normal. Donc, pour les gens qui aiment le hockey, qui veulent pouvoir pratiquer ce sport-là d'une manière différente, mais c'est vraiment le fun de ça, découvrir le hockey luge.
Et encore une fois, la même question, donc il y a possibilité pour des gens de participer à ça, d'aller dans des équipes de façon amatrice pour essayer le hockey luge et pour intégrer des équipes de plaisance?
Oui, puis c'est sûr, comme tu dis, il y a des gens sans plus qui peuvent découvrir ce sport-là, mais
oui, bien sûr.
Mais l'emphase, bien sûr, c'est sur le fait qu'il y a possibilité de l'essayer. Parce qu'on sait qu'aussi, là, l'équipement, c'est quand même très cher avec les luges, les bâtons spécialisés, tout ça. Donc, déjà bien de pouvoir avant tout découvrir le sport, savoir si c'est fait pour nous.
Oui,
Évidemment,
ben, y a des gens qui ne veulent pas nécessairement faire ça de façon compétitive ou qui ne sont pas intéressés donc à se développer dans ces sports-là, mais qui veulent quand même faire des activités parce que ça leur permet de sortir, de rencontrer des gens et c'est très bien comme ça aussi. Donc, on peut effectivement trouver des organismes qui nous prêtent leur matériel là, pour une soirée ou une activité là, qui est hebdomadaire sans avoir de vision olympique. Là.
Oui, exactement, c'est ça qu'il faut retenir aussi, parce qu'évidemment, on sait que le para-hockey, c'est un sport extrêmement compétitif qui peut l'être, mais aussi, ça peut l'être aussi très amateur pour le plaisir et simplement s'amuser à pratiquer ça, comme tu dis, hebdomadairement.
Un peu comme les ligues de garage, finalement. Oui,
exactement.
Au hockey. Au hockey plus traditionnel.
Oui, exactement. Je vous invite à acheter un œil aussi sur le web et en terminant, évidemment, aussi pour information de différents sports. Mais il y a la FSA, la Fondation des sports adaptés, et le CADS, le Sport de glisse adapté Canada. Il vous permet évidemment d'en apprendre plus sur ces sports-là et aussi, si vous désirez, offrir vos services en tant que évidemment comme bénévole, bien, vous pouvez le faire avec ces activités-là. Donc, vous pouvez simplement contacter ces organismes et offrir vos services nous, si vous avez des questions. On a tout ce que j'ai parlé aujourd'hui.
C'est effectivement quelque chose auquel on pense peut-être moins hein, d'être bénévole pour des sports adaptés, mais c'est une belle façon, évidemment, de faire du sport, de sortir de chez toi et de faire sa bonne action en même temps. Donc, c'est quelque chose à considérer pour les auditeurs et les auditrices pendant cet hiver, pour remettre du positif dans cet hiver qui est froid.
Oh oui, puis aussi, un autre message en terminant. On rappelle que la marche, évidemment, dans les rues peut être aussi bien populaire ou dans la forêt ou tout ça. Donc, c'est aussi ça qu'on va retenir. Si les conditions le permettent, ben, je pense qu'avec un bon fauteuil électrique adapté ou simplement avec le bon équipement, on peut aller prendre de l'air aussi en prenant simplement une marche et profiter de notre joyeux temps des fêtes.
Encore faut-il que les trottoirs soient déneigés hein, ou les pistes cyclables, ouais. Mais bon, tout dépendant où vous habitez, peut-être que c'est plus facile pour vous. Et qu'on n'aura peut-être pas trop de tempêtes. Donc, on souhaite avoir un temps des fêtes qui est relativement facile là, pour les personnes en situation de handicap physique. Merci beaucoup, Samuel.
Ça me fait plaisir.
Bonjour maintenant Martin Allonde, agent de défense collective des droits chez Execo. Bonjour, M. Allonde.
Oui, bonjour, Mme Pellerin. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Ça fait toujours plaisir de vous recevoir chez Execo. Vous êtes quand même des amis de longue date du CanalM. Mais je voulais parler plus précisément avec vous de la crise du logement actuel qui sévit à Montréal et un peu autour de Montréal. Évidemment, là, on a peu de logements abordables qui sont disponibles. J'imagine que ça épargne pas les personnes en situation de handicap, étant donné qu'ils doivent avoir aussi peu de logements qui sont accessibles.
Oui, ben, en effet, les personnes en situation de handicap sont confrontées à une double crise en matière de droit au logement. À la crise de l'abordabilité qui affecte la population en général, s'ajoute la crise permanente du manque de logements accessibles. Vous avez simplement marché dans la rue pour le constater. La très grande majorité du vieux cadre bâti est totalement inaccessible pour les personnes qui utilisent une aide à la mobilité comme un fauteuil roulant. Il y a présence d'escaliers pour accéder au logement, des cadres de portes ou des corridors trop étroits, par exemple. Donc, les immeubles de 4 étages et plus doivent maintenant être munis d'un ascenseur, mais la plupart de ces immeubles sont plus récents, donc plus chers. Donc, trouver un logement qui est à la fois abordable et universellement accessible sur le marché privé devient super difficile. Il y en a dans les logements sociaux et communautaires, mais d'abord, faut y être admissible.
Oui.
Et la quantité des logements existants est insuffisante pour permettre de répondre aux besoins qui explosent, notamment en raison du vieillissement de la population.
Et vous l'avez dit, hein, c'est une double crise dans l'optique où, évidemment, là, quand on n'a pas de situation de handicap, c'est déjà difficile. Là. En plus, avec une situation de handicap, ça prend des aménagements qui sont particuliers, mais ça prend aussi un certain budget. Et les personnes en situation de handicap, malheureusement, sont plus enclins à être en situation de pauvreté ou en situation de revenus faibles. Donc, dans un cas comme ça, c'est un double tranchant, finalement. On ne s'en sort pas ni d'un côté ni de l'autre.
Oui. Et en fait, aussi, les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver en situation d'itinérance. Il y a une enquête qui a été menée en 2024 par le Bureau de la Défenseur fédérale du logement puis la Commission canadienne des droits de la personne qui révèle que les personnes en situation de handicap sont 4 fois plus à risque de se retrouver en situation d'itinérance et 2 fois plus susceptibles de se retrouver en situation d'itinérance cachée. C'est en raison du manque de logements accessibles et abordables. Ça nous apprend aussi que 53 % des personnes en situation de handicap qui ont connu l'itinérance ont déclaré que c'était après avoir subi de la violence.
Ah, ouais.
Comparativement à 36 % des personnes sans incapacité. Au Québec, il y a l'Office des personnes handicapées qui a publié en 2024 un constat similaire. 51 % des femmes ayant une incapacité ont vécu une situation de violence de la part d'un partenaire intime, comparativement à 35 % des femmes sans incapacité. C'est chez les plus jeunes que la situation, c'est le pire. C'est 60 % des femmes entre 18 et 34 ans ayant une incapacité qui ont subi de la violence de la part d'un partenaire intime.
C'est énorme. C'est plus de la moitié. Hein.
C'est 6 sur 10. Comparativement à 32 % des femmes du même âge sans incapacité. L'étude n'explique pas pourquoi c'est les plus jeunes sont le plus touchés, mais on peut présumer que c'est parce que les plus jeunes ont moins de marge de manœuvre au niveau financier.
Oui.
Les personnes plus âgées, des fois, vont avoir peut-être eu des économies ou avoir un plus gros réseau de contacts. Mais les plus jeunes n'ont pas cette marge de manœuvre-là, donc ils n'ont pas la possibilité de payer un loyer plus cher, par exemple, pour se sortir d'une situation de vulnérabilité envers un partenaire. Il y a une autre étude aussi, cette fois du Centre canadien pour le droit au logement, qui démontre que les personnes en situation de handicap sont 316 % plus susceptibles de subir une agression de la part de leur propriétaire ou d'un de leurs représentants.
316 % quand même, là, donc...
Oui, c'est 3 fois plus à risque
de subir une agression. Bien, ça montre en fait que comme société, là, au niveau du filet social pour les personnes en situation de handicap, là, on a un bon trou, là.
Oui. C'est ça, c'est le constat, c'est que la majorité des personnes en situation de handicap qui se retrouvent en situation d'itinérance le sont à cause de la violence qu'elles subissent au quotidien. Il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance visible ou cachée. D'autres demeurent dans des logements insalubres ou qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Indépendants de leurs proches pour simplement, par exemple, descendre les escaliers pour sortir de chez elles, ou ben trouvent pas d'autre choix que de rester ou de retourner vivre dans des endroits où elles subissent de la violence.
Puis évidemment, l'état de dépendance, donc d'être dépendant de quelqu'un là, pour descendre les marches, pour avoir accès à tes soins, par exemple, ça te maintient dans une situation de violence. C'est beaucoup plus difficile de s'en sortir quand on n'est pas un homme, évidemment.
En fait, ça maintient les personnes dans des situations de vulnérabilité.
Oui.
Envers des proches par exemple, les personnes n'oseront pas contester des augmentations de loyers abusives parce que soit la personne a attendu des années pour avoir des adaptations dans son domicile, ou encore elle est en attente pour en avoir, ça fait des années qu'elle attend. Et le propriétaire peut à tout moment retirer son autorisation.
Oui, OK, oui. Donc, effectivement, le propriétaire ici a le gros bout du bâton, là.
Oui. Donc, théoriquement, ils n'ont pas le droit de le faire, à moins qu'ils démontrent que ça pose une contrainte excessive. Mais même dans ce cas-là, il faut que la personne se retourne vers le tribunal administratif du logement, ce qui implique des délais.
Oui, ce qui implique des délais, ce qui implique évidemment là, des problèmes au niveau de la charge mentale, hein, de monter un dossier et tout ça, et puis de devoir faire la preuve d'un abus. Donc, effectivement, là, j'imagine que les personnes, malheureusement, trouvent ça plus facile de ne rien dire. Parlez-nous quand même, vous avez parlé d'itinérance cachée. Là, pour ceux qui ne seraient pas au courant du terme itinérance cachée, qu'est-ce que ça implique?
L'itinérance cachée, ça peut être une personne qui soit perd son logement ou doit le quitter pour fuir une relation toxique, par exemple, va se retrouver chez des proches.
Oui.
Mais tu sais, nous, on a des situations où une personne avec son enfant s'est retrouvée chez un ami dans un 3,5.
Oui, donc c'est
dans
pas...
un logement qui n'était pas accessible. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, ça peut être des fois de se promener d'un ami à l'autre comme ça. Ça peut être habiter dans sa voiture. Il y a eu des personnes, ça peut être des personnes pendant l'été qui vont habiter dans une tente. Ça peut être plein de situations comme ça.
Oui. Au niveau, évidemment, d'avoir du matériel adapté dans ces cas-là, on s'entend bien. Quand on habite dans une voiture ou dans une tente, c'est difficile d'avoir du matériel adapté puis de répondre à des besoins quand on a besoin de matériel adapté, bien sûr.
Oui.
Et on parle aussi beaucoup dans les dernières semaines, donc, de la privatisation des aides au logement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes au privé qui disent construire des logements pour aider la crise en itinérance dans des gros promoteurs privés. Est-ce que CGECO, vous pensez que c'est la solution de se tourner vers le privé pour répondre à la crise du logement?
Ben, en fait, on a été un peu étonnés de voir cette proposition-là. Nous, ça nous fait l'effet un peu des pompiers pyromanes. Donc des personnes qui ont créé la crise qui proposent de la régler.
Oui, ouais, c'est tout à fait ça, là.
Le lifeguard qui pousse une personne qui est incapable de nager dans une piscine puis qui se vante de
l'avoir sauvé.
De la sauver après. Ouais. En fait, il y a plusieurs problématiques dans cette proposition-là. De un, ils veulent construire des logements pour... il y a l'idée des bons versus les mauvais itinérants, si on veut.
Oui.
Donc, les personnes qui se retrouvent à la rue parce qu'ils sont pas capables de se trouver un logement, qu'ils sont capables de se payer, pour les personnes en situation de handicap, c'est un logement qui est à la fois accessible et capable de se payer. Ça s'appelle des logements sociaux, des coopératives ou des logements qui sont réellement abordables que ça prend pour ces personnes-là. Il y avait déjà ça qu'on trouvait un peu étrange au niveau de la question que le privé mentionne pouvoir construire moins cher. En fait, c'est ce qu'ils demandent, c'est de, tu sais, que la ville donne un terrain, que le projet soit approuvé rapidement, qu'il n'y ait pas autant des toutes les étapes, tous les délais qui viennent avec les projets de logements sociaux communautaires. Ben, si on donnait les mêmes avantages aux promoteurs, aux organismes qui développent des logements sociaux communautaires, ben, ça coûterait vraiment beaucoup oui. moins cher. Une grosse partie du surcoût des logements sociaux communautaires, c'est les délais. Les délais pour obtenir un terrain, obtenir l'autorisation, obtenir le financement. C'est une des premières raisons qui explique que les logements sociaux communautaires coûtent plus cher. Donc, si on donnait les mêmes avantages que ce que les promoteurs privés demandent, ben, ça réduirait les coûts énormément. Puis, une autre raison, c'est que les logements sociaux communautaires ont des normes plus élevées en matière d'accessibilité, d'une part, puis au niveau de l'efficacité énergétique, d'une autre part. Donc, ben, en fait, ça coûte moins cher construire un logement si tu mets des fenêtres de mauvaise qualité, mais si on regarde au niveau de la durée de vie du bâtiment, ben, en fait, pour les organismes, ça revient moins cher à la longue. Ça te coûte un peu plus cher construire un immeuble, mais que par la suite, ta facture d'électricité est moins chère pendant 50 ans, ben, dans le fond, en bout de ligne, si on regarde à moyen puis long terme, ben, ça revient moins cher. Les promoteurs privés, quand on construit un condo, ben, le condo, tu le vends, puis si les fenêtres sont à refaire dans 20 ans, c'est pas ton problème.
Oui, effectivement.
Et ben la facture d'électricité, c'est pas eux qui la payent, c'est les locataires. C'est une des raisons que nous, ben, on trouve que c'est souhaitable que les normes d'accessibilité et d'efficacité énergétique soient plus élevées. C'est dans l'intérêt à la fois des locataires, mais de la population en général à moyen puis long terme. Puis un peu la même chose au niveau de l'accessibilité. Le fait d'avoir des normes plus élevées au niveau de l'accessibilité, ben, ça coûte moins cher à long terme parce que de le faire dès le départ, ça coûte au moins 8 fois moins cher que de le faire par la suite.
Oui, c'est bien dit. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet enjeu-là et aussi sur votre vision de la crise du logement là, pour les personnes en situation de handicap. Bien sûr, Execo va nous tenir au courant là, des différents enjeux. Merci d'avoir été avec nous.
Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin.
On s'entretient maintenant avec Mathieu Lamarche du groupe GDI. Bonjour, Monsieur Lamarche.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bien, allez-vous?
Ça va très bien, merci. On s'entretient avec vous là, pour parler, entre autres, d'accessibilité au niveau de l'immobilier. Et parce que vous avez quand même reçu un prix de la part du magazine Les Affaires pour petites entreprises. Voulez-vous nous en parler?
Oui, j'ai été nommé PDG de l'année 2025 pour les petites entreprises. Fait que j'étais vraiment, vraiment surpris et très honoré.
C'est quand même un prix important que vous avez eu. Ça montre en fait que le groupe GDI, là, vous faites les choses un peu différemment des autres. Entre autres, en termes d'accessibilité, voulez-vous nous parler de votre vision?
Oui, en fait, ben moi, je suis quadriplégique depuis 2002, suite à un accident de moto. Donc, quand je me suis lancé en affaires, là, dans les années 2010, ben, c'est sûr que je m'étais dit que j'allais construire des immeubles accessibles, puis vraiment centrer là, notre projet d'affaires là-dessus. Fait que depuis 2010, on construit des immeubles vraiment 100% accessibles. On était pas mal les seuls au début, mais je dirais que maintenant, tranquillement, pas vite, les autres nous suivent parce que c'est un plus aux usagers, évidemment.
Oui, bien, ça devient un plus, surtout dans le cas du vieillissement de la population. Hein. Il y a de plus en plus de clientèles qui ont besoin de cette accessibilité-là, là, même s'ils ne sont pas, là, de prime abord, en situation de handicap.
Oui, exactement. Puis, dès le départ, nous, c'était pas seulement visé pour les personnes à mobilité réduite. C'était aussi, comme vous dites, pour les personnes plus âgées. Notre objectif, c'est un peu que les gens puissent vieillir chez soi. Donc, si on gagne en âge, tant qu'on va pas vite, notre mobilité se réduit. Bien, on n'est pas obligé de déménager, on peut rester où est-ce qu'on est. Fait que c'est vraiment la clientèle qu'on visait, là, les retraités, pré-retraités. Donc, ça nous a bien servi.
Et ça peut aussi amener un certain confort, même pour les gens qui ne sont pas en situation de handicap ou en situation de vieillissement. Mais ça rend la vie plus facile un peu pour tout le monde, finalement.
Oui, effectivement. Puis si c'est bien fait, l'accessibilité, bien, c'est pratiquement invisible. C'est bien fait dès le départ, c'est prévu en amont dans les plans de vie. Bien, comme exemple, j'ai un exemple parmi tant d'autres, un bouton pour une porte automatique, une porte motorisée. Bon, bien, si tu arrives avec les bras pleins d'épicerie, bien, un petit coup de coude sur la puis-porte et la porte s'ouvre toute seule, c'est un plus pour tout le monde. Puis, comme je le répète, bien, si c'est bien fait, c'est pas au détriment du design du bâtiment.
Oui, souvent, on voit ça comme étant quelque chose qui est mal vu ou qui va nuire, en fait, au visuel.
Oui, ça, c'est surtout quand c'est fait par après.
Oui.
Quand c'est fait a posteriori, ben là, le bâtiment n'a pas été prévu pour ça du tout. Ben là, on voit souvent des rampes interminables en zigzag devant des immeubles. Personne ne trouve ça beau. Fait que si c'est passé dès le départ, c'est non seulement plus esthétique, mais c'est aussi extrêmement peu coûteux.
Oui.
Si c'est fait par après, là, c'est excessivement coûteux. Mais si c'est pensé dès le départ, tout ça, là, c'est pour un immeuble comme nous, on fait, comme genre un projet à Laval qu'on est en train de faire maintenant, un 15 étages, le projet de Nevea Laval, là, c'est un immeuble de 110 millions. C'est pratiquement marginal. Là, c'est pratiquement. C'est pas important, là, le coût d'accessibilité pour ce type de projet.
Parce que vous faites quand même des gros projets là, chez Groupe GDI. Vous faites quand même c'est ça, des immeubles de plusieurs étages là, puis avec des plusieurs dizaines de logements.
Ouais, ben nous, quand j'ai commencé à faire de la maison unifamiliale.
Oui.
Après ça, 11 logements, 15 logements, 24, 148. Là, maintenant, on fait un 284 logements. Tout le monde était propriétaire à 100% en plus. Donc, on est parti très, très, très petit. Quand j'ai commencé en 2010, j'étais tout seul, la compagnie. Et maintenant, on est rendu une grosse équipe, puis je suis très fier de mon équipe et de ce qu'on a accompli. Là.
Donc, vous ne donnez plus dans la maison unifamiliale du tout maintenant? Là.
Non. Non, on fait uniquement des bâtiments multilocatifs de grande hauteur, c'est-à-dire 10 étages et plus en béton.
Et vous qui avez évolué dans ce milieu-là depuis 2010 et peut-être avant aussi, est-ce que vous voyez vraiment que les mentalités changent au niveau de la construction, que c'est peut-être plus ouvert aux personnes qui seraient différentes, qui auraient besoin de besoins, qui auraient des besoins plus particuliers?
Oui, tranquillement. Tranquillement, mais le code du bâtiment, la dernière version du code a été modifiée, ça a quand même aidé. C'est pas parfait, mais ça a quand même beaucoup aidé. Maintenant, le job est dans les détails. On peut respecter le code, mais pas faire un travail parfait. Comme exemple, les seuils de porte des bâtiments dans les entrées, bon, ben souvent, il y a un seuil de un demi-pouce, trois quarts de pouce, ce qui est trop. Nous, on vise, c'est zéro, même pas un millimètre. Des modalités font en sorte que les architectes, souvent les ingénieurs, proposent des petits seuils de porte pour empêcher les infiltrations d'eau. Mais dans les bâtiments, comme on fait, il n'y a pas d'infiltration d'eau.
Non,
comme
c'est
Walmart, pour un coup dessus, il n'y a pas d'eau qui rentre de porte.
Il ne devrait pas en avoir, en tout cas. Là. S'il y en a, c'est parce qu'on a un problème.
C'est juste une mentalité. C'est juste des gens qui ne sont pas au courant. Puis, ils ne réalisent pas que pour une personne en fauteuil roulant comme moi, ben, un seuil de demi-pouce, c'est difficile à traverser.
Oui, c'est ça.
C'est pas plaisant, donc il ne faut pas le faire.
C'est effectivement, là, vous le dites, hein, c'est des détails. Hein. Puis pour quelqu'un qui n'est pas en fauteuil roulant, on ne voit pas ces détails-là. Jusqu'au jour où, effectivement, là, on se casse une jambe ou quelque chose, on se ramasse dans le fauteuil roulant, puis on se rend compte que finalement, ce qu'on pensait être adapté n'est pas adapté du tout.
Exactement, c'est ça. C'est pas parce que c'est possible de rentrer que tu as envie de le faire trois fois par jour parce que tu habites là. Fait que nous, c'est vraiment sur quoi qu'on se démarque. C'est que, évidemment, mon équipe est très sensibilisée par. Je suis quadriplégique, donc ils connaissent ma réalité. Donc, dans les petits détails, nous, c'est là qu'on se démarque.
Et on l'a vu là, dans les dernières années, dans différents bâtiments qui ont été faits, là, même dans des bâtiments municipaux, là, qui se disent adaptés, mais qui ne sont pas du tout au final. Là. Parce que ça a été fait par des gens qui, visiblement, n'ont pas d'handicap, là, donc qui étaient probablement pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas demandé l'avis de personnes en situation d'handicap, qui n'ont pas testé leurs produits.
Oui, mais c'est de mieux en mieux. On voit qu'il y a de plus en plus de sensibilité par rapport à ça. Puis aussi, ben, comme vous dites, la population est vieillissante. Donc, on voit qu'il y a maintenant une demande. Donc, c'est sûr que la pression monétaire et financière, ouais. Ça fait son bout de chemin. Puis tranquillement, pas vite, on voit que les mœurs changent tranquillement.
Bien, malheureusement, c'est ça. Hein? Quand il y a de l'argent à faire, on dirait que les gens là veulent bien ouvrir les yeux, alors que quand il y avait moins d'argent à faire, là, c'était comme moins la mode. C'est un peu triste de penser comme ça, mais vous le dites, effectivement, ça apporte quand même son taux de positif. Là.
Oui, très bien. On va dans la bonne direction, mais c'est aussi faire attention au coût, parce qu'évidemment, la population de personnes à mobilité réduite a un revenu plus faible que la moyenne, malheureusement. Il faut pas faire des immeubles adaptés, mais pas accessible au niveau monétaire. C'est bien beau faire un quartier mi-adapté, mais s'il y a 2 800 $, qui va se le payer? T'sais?
C'est un bon point, puis je pense que c'est peut-être un point qu'on oublie aussi, là, c'est-à-dire de penser à monsieur, madame, tout le monde qui ont des salaires moyens, une vie très, très dans la moyenne, puis qui veulent se loger à prix abordable dans des endroits qui sont beaux, qui sont accueillants, puis qui sont intéressants là, pour ces personnes-là.
Oui, c'est ça. D'accord.
Et vous dites aussi, donc, ça commence à évoluer sur le marché de la construction. Qu'en est-il des chantiers? J'imagine que vous avez fait votre lot de chantiers. Est-ce que les chantiers sont plus accessibles maintenant? Est-ce qu'on fait plus attention? Parce que moi, j'imagine bien un chantier de construction. Pour moi, c'est la place à moins accessible au monde, ou presque.
Effectivement, c'est sûr que c'est pas accessible. Moi, sur mon chantier, j'y allais souvent. J'y vais un petit peu moins souvent maintenant. Je suis plus au niveau de l'administration. Oui. Mais quand même, j'essaie d'aller une fois ou deux par semaine. Une fois ou deux semaines, je dirais. Ben oui, j'ai pris des flats sur mes roues. Non, le chantier, c'est pas accessible. Et c'est pas non plus nécessaire d'être accessible. Le but, c'est de la productivité, c'est la plus efficace possible et que les choses roulent rondement. Fait que, non, les chantiers sont pas accessibles. Mais bon, au bout que l'immeuble est rendu assez avancé, on commence à faire les visites. Là, oui, ça le devient.
Donc, pour vous, c'est pas un enjeu, là, les chantiers accessibles, là, ou en tout cas, c'est pas une priorité en ce moment.
J'ai la chance que nos menuisiers et menuisières sont très en forme, fait qu'ils m'aident ils soulèvent ma chaise et ils m'amènent sous les étages.
Oh, quand même, pas de problème. Quand même. Et, et j'imagine que vous savez maintenant où aller pour réparer une crevaison de pneus. Vous avez, votre réseau.
Oui, j'en ai changé pas mal de pneus maintenant.
Oui, bon, la première fois, tu sais pas trop où aller. Après quelques fois, tu trouves des endroits, là, tu te fais un réseau de crevaison de pneus. Mais pour revenir à vos activités, qu'est-ce qui vous attend là, pour 2026 de votre côté là, chez le groupe GDI?
Oui, ben nous, on termine le projet Névia Laval en 2026, donc en octobre. On a notre projet à Terrebonne qui s'appelle le Névia Terrebonne, qui va commencer en juillet. Un autre petit projet aussi à Fabreville, qui va commencer plus tard dans l'année, aujourd'hui, dans les prochains mois. Donc, ce qui s'en vient, c'est d'autres projets, continuer à acheter des terrains pour prendre de l'avance. Parce que ces temps-ci, c'est très, très long pour tenir les permis. Donc, on prend beaucoup d'avance. Fait que nous, on a l'objectif 2040 de construire 10 000 portes et de les conserver sous gestion. Nous, notre compagnie est intégrée verticalement, c'est-à-dire qu'on est développeur, entrepreneur général, entrepreneur électrique, gestionnaire et propriétaire. Fait qu'on fait toutes les postes. Fait que ce qui s'en vient pour nous, c'est plus de croissance, embaucher, puis espérer que l'inflation ralentisse tranquillement pas vite.
Oui. Vous êtes rendu à combien d'employés dans votre groupe maintenant?
On a environ 12 à l'administration, puis environ 30-35 employés de chantier. On espère monter environ à 60 employés de chantier d'ici la fin 2026.
Ben, si vous voulez avoir 10 000 portes, effectivement, il va falloir des gens pour vous aider avec tout ça.
Ouais. Ouais, là, on a deux équipes. On va monter à 4 équipes bientôt.
Oh, quand même. OK.
Oui.
Et puis, est-ce que votre vision s'est modifiée avec le temps ou est-ce que ça a toujours été la même vision, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est adapté, qui est accessible monétairement, qui est quand même beau, là, qui est quand même luxueux?
Oui. Ah oui, ça s'adapte pratiquement à tous les projets. Nos projets changent. On s'améliore tout le temps. On tente d'offrir un meilleur produit à un prix abordable. On a beaucoup maintenant visé sur l'espace commun. Donc, au Névia Laval, il y a piscine intérieure, extérieure, salle commune, salle multifonction, espace de coworking. Ça, c'est quand même nouveau depuis la pandémie. Les prochaines années à venir, on met l'emphase sur l'abordabilité. Il faut réussir à diminuer nos coûts pour diminuer les loyers. C'est vraiment l'enjeu principal.
Ouais, ben, c'est un enjeu, sociétal. Malheureusement, les gens sont plus capables de payer des loyers. Et les loyers explosent. Donc, je suis contente de voir que pour vous, là, c'est quand même quelque chose là, auquel vous êtes sensibilisé, parce que c'est pas tous les entrepreneurs, là, visiblement, qui sont sensibilisés à cet enjeu-là. Et vous parliez aussi, j'ai vu là, sur le site Internet, des espaces, par exemple, de jardinage où il y a des bacs debout là, pour les personnes, tant pour les personnes à mobilité réduite, j'ai envie de dire que pour les personnes qui ont juste pas le goût de se mettre les genoux au sol, là, parce que c'est pas confortable. Ouais.
Ben, nous, on vise vraiment à faire des espaces de vie. C'est souvent des immeubles. Au Québec, ben, je dirais dans le monde, les gens qui en immobilier, souvent, ils disent que, bon, ils gèrent des immeubles. Nous, on gère des milieux de vie.
Oui.
L'immeuble fait partie d'un tout, mais c'est pas tout. Donc, c'est pas nécessairement la priorité. Fait que nous, on essaie de créer un ensemble cohérent où les gens aiment vivre, font des rencontres, tu sais, qui sont heureux. Fait que, oui, bac jardinage, tout ça, ça fait partie de ça. On fait aussi des événements. On peut créer des événements tous les 3-4 mois. Pour rassembler un petit peu les gens. Il y a quand même beaucoup de solitude encore parmi les Québec puis dans le monde entier. Il y a une crise de par rapport à ça. Fait qu'on essaie de créer un petit peu des liens, tout ça. Fait que on tente de se marquer puis de faire un produit qui est différent. On essaie d'innover dans une industrie qui est généralement lente à innover.
Donc, j'imagine que la plupart de votre clientèle, c'est des personnes en mobilité réduite, des personnes vieillissantes ou du moins qui voient, qui sont peut-être là, dans le début de la cinquantaine, soixantaine, puis qui se voient vieillir à plus long terme?
Pas nécessairement. Notre clientèle, c'est vraiment séparé retraité, pré-retraité, jeune professionnel.
Okay.
Les personnes à mobilité réduite, ça reste une très faible portion de notre clientèle, principalement parce que nous, on fait des immeubles neufs. Malheureusement, les immeubles neufs sont tous plus dispendieux. C'est pas zéro, mais c'est un petit pourcentage. Je dirais pas plus que 5 % 5 à 10 % maximum.
Mais c'est quand même pas si mal, là. C'est déjà
ouais,
ça. Là,
on aimerait faire mieux, mais malheureusement, c'est une question d'économie. Nous, en 2010, on construisait l'appartement pour 120 000 $. Aujourd'hui, c'est 400 000. Donc, les loyers ont augmenté, mais on fait pas plus d'argent.
Oui, je comprends.
Mais c'est ça. Puis le risque a augmenté aussi, parce que comme le récemment avec les tarifs, bon, on reçoit un paquet d'augmentations en plein visage, en plein milieu de chantier. C'est pas facile.
Oui, clairement.
Il y a beaucoup de risques à gérer aussi. Donc, l'immobilier, c'est pas le tout repos.
Non, vous dites hein, c'est un enjeu là, pour 2026 au niveau des coûts, mais vous semblez quand même sensible à la réalité, puis vous allez trouver, j'imagine, là, des solutions innovantes puisque c'est ce que vous faites depuis plusieurs années. Donc, on vous souhaite bonne chance avec tout ça, en espérant effectivement, vous l'avez dit, là, que l'inflation se calme et vous donne un petit repos.
Parfait. Oui, merci beaucoup pour le service, c'est gentil de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup à vous, puis on vous souhaite, comme je vous le disais, là, bon succès avec vos projets et que la compagnie grandisse selon vos aspirations là, pour les prochaines années.
Merci. We'll be right back.
De nouveau, cette semaine, on termine l'émission avec la revue de presse. Et on va aller au niveau de l'Uruguay, pays dont on parle peu quand même dans les revues de presse généralement. Mais attendez, on va voir la promotion de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Uruguay par le bien du patrimoine vivant. Au Rio de la Plata, c'est le tango qui résonne. Donc, à partir de 2020, on voyait que le bandoneo, qui est un instrument d'origine allemande devenu emblème culturel de l'Uruguay, donc pour la musique tango, la pratique était en déclin. Il restait seulement un petit nombre de joueurs qui étaient en situation de vieillissement et seulement 3 luthiers. Donc, on s'est questionné à savoir comment on faisait là, pour améliorer ou faire revenir la flamme pour cet instrument-là, qui est un instrument, un emblème culturel en Uruguay. Et on s'est questionné à savoir pour les personnes en situation de handicap, là, si ce n'était pas une idée à suivre, donc de favoriser de pouvoir jouer de cet instrument-là pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a parti un projet parce que, justement, il nous restait seulement un peu moins de 25 joueurs professionnels dans tout le pays, et dont la grande majorité avait plus que de 60 ans, donc on sentait un peu mourir cet emblème culturel-là à petit feu. Donc, la Fondation Synarte, en collaboration avec le gouvernement de l'Uruguay, on promeut la transmission intergénérationnelle de la pratique du bandéon par le biais de l'éducation. Et on met de l'avant, donc, le fait de jouer de cet instrument-là pour les personnes en situation de handicap. Étant donné que ça ouvrait, en fait, à la fois le fait de pouvoir conserver cet emblème culturel-là bien vivant en Uruguay, mais aussi, par la suite, ça aidait à l'inclusion des personnes en situation de handicap. On a mis 32 étudiants de moins de 35 ans pour l'initiative Bandéon à l'école, incluant des personnes en situation de handicap, qui ont fait en sorte que les hommes et les femmes aussi ont été mis d'avant, alors que généralement, c'était beaucoup plus les hommes qu'on formait à cet instrument-là, et des gens, évidemment, qui n'étaient pas en situation de handicap, parce qu'on voyait ça comme étant traditionnel, hein, on avait une vision plus traditionnelle de la chose. Donc, maintenant, ben, on a des dizaines de personnes qui sont capables de jouer de cet instrument-là, et le programme se poursuit, hein, on a des formateurs qui aident à la formation de personnes en situation de handicap pour jouer de cet instrument-là. Et on espère que dans les prochaines années, même si voilà, le projet est relativement récent, on espère que dans les prochaines années, donc, on réussisse à retourner et à revoir, à avoir plus de gens qui jouent cet instrument-là et que cette culture musicale ne soit plus en danger en Uruguay. On s'en va en France maintenant, où les politiques de santé psychologique doivent être mieux prévenues chez les personnes en situation de handicap. C'est ce que dit un rapport qui a été sorti là, dans les dernières semaines, qui nous apporte à dire qu'au final, les ressources gouvernementales qui sont mises d'avant pour aider les personnes en situation de handicap qui ont des problèmes de santé psychologique sont défaillantes. C'est ce que dit le rapport mot pour mot. Et la prise en charge de la santé mentale et du handicap à l'avance pourrait évidemment réduire fortement les coûts qui sont associés par la suite aux problèmes de santé mentale qui coûtent évidemment très cher, entre autres en hospitalisation. Donc, ce qu'on dit, en fait, c'est que l'État français perd des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, parce que le système pour aider les personnes qui ont des problèmes psychologiques et défaillants, le filet social ne fonctionne pas. Donc, on parle de 27,8 milliards d'euros en dépenses directes en 2023 en problèmes psychiatriques. Et donc, chez les personnes en situation de handicap, donc c'est un problème, on doit intervenir parce qu'on n'a pas les moyens de soutenir des dépenses aussi importantes. Et évidemment, les gens qui ont des problèmes psychologiques doivent être mieux soutenus et doivent être vus à l'avance pour qu'on soit capable de prévenir des problèmes plus graves pour, évidemment, leur santé et leur bien-être, parce que c'est le rôle de l'État de le faire. Hein. C'est ce que dit le rapport qui a été publié par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, qui dit qu'au final, l'État français a lamentablement échoué, littéralement, dans le fait de prévenir les handicaps, la santé, les problèmes de santé mentale pour les personnes en situation d'handicap. Donc, c'est un rapport qui est très dur, qui a été sorti, mais ça montre évidemment l'ampleur du problème. Évidemment, on parle en France, mais on a le même problème au Québec. On a le même problème un peu partout. Les personnes en situation de handicap, malheureusement, sont plus enclines à avoir des problèmes de santé psychologique, entre autres parce que les services sont inadéquats, puis leur vie est beaucoup plus complexe par le manque d'accessibilité des endroits publics et privés. Il y a un manque d'aide au privé. Et on termine avec une mauvaise nouvelle qui nous vient du Québec cette fois. Le gouvernement Legault qui annonce la fin d'une aide financière destinée aux enfants en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers chez les demandeurs d'asile. Les personnes qui étaient demandeurs d'asile, qui avaient des enfants qui avaient des besoins particuliers et des situations d'handicap pouvaient recevoir quelques centaines de dollars pour les aider, étant donné évidemment là, que ces personnes-là avaient besoin de soins particuliers, de services particuliers et aussi parfois donc d'équipements hein, qui coûtent très cher. Et les personnes demanderaient ce d'asile, évidemment, sont en situation de précarité extrême. Quand ils arrivent au Québec, hein, ils arrivent avec presque rien. Et puis, on très, très peu de réseaux, on très, très peu de moyens financiers. Donc, c'était un aide qui pouvait atteindre 400 $. C'était assez peu, mais quand même 400 $ qui faisait toute la différence dans la plupart. Chez les personnes en situation de demande d'asile, c'est des personnes donc qui ne peuvent pas travailler à court terme, qui n'ont pas l'autorisation de travailler à court terme et donc qui ont des revenus de bien-être social, hein, d'aide de dernier recours, le même revenu que nous, là, que les Québécois. Québécoises qui sont sur l'aide de dernier recours. Et donc, ce 400 $-là a été enlevé aux personnes qui ont des enfants en situation de handicap. Et il y avait plusieurs témoignages dans les journaux qui disent de familles qui viennent d'arriver au Québec, là, qui sont des demandeurs, demanderesses d'asile, qui disent que ce 400 $-là était peu, mais qui leur sauvait un peu la vie. Et que là, sans ce 400 $-là, ce serait extrêmement difficile, encore plus difficile, devrais-je dire, de rejoindre les deux bouts. Donc, voilà, ça a été annoncé par le gouvernement Legault dans les derniers jours. On verra ce qui sera fait en 2026, mais c'est une autre aide précieuse qui a été coupée à des personnes vulnérables, parce que les personnes qui sont demandeurs d'asile, c'est des personnes qui n'ont pas eu le choix de quitter leur pays parce qu'ils étaient en danger. Hein, c'est des personnes qui ont dû quitter parce qu'ils ne pouvaient pas rester. Et donc, voilà, on leur coupe un aide qui était essentiel pour ces personnes-là qui avaient des enfants en situation de handicap. Ils sont quand même relativement nombreux à avoir des enfants en situation de handicap, mais quand tu viens de... Entre autres, d'un endroit où tu as vécu la guerre ou la misère, là, ça arrive très souvent que les enfants ont des besoins particuliers et des handicaps étant donné ce qu'ils ont vécu. Donc, on verra si cette allocation-là sera remise en 2026, s'il y aura des protestations à haute échelle, mais pour l'instant, le gouvernement n'est pas revenu sur sa décision. Donc, c'était tout pour la revue de presse cette semaine. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous pour l'émission Sans détour et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne semaine tout le monde!